Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans notre nouvelle émission consacrée au théâtre et à la qualité extraordinaire des textes français, ça n'engage à rien. Dans cette émission solennelle, nous allons solennellement entrer dans le corps et dans la tête des écrivains qui ont su rédiger les plus belles lignes de la littérature française au théâtre.
Oui, bonsoir. Excusez-moi de vous couper, mon cher Nicolas. Oui. Je me permets de reprendre l'antenne parce qu'en fait, l'émission qu'on a envie de proposer ensemble, même si vous êtes de la partie, mais apparemment pas dans la tête, plutôt dans les mains, hein, au niveau des boutons poussoirs, l'émission qu'on a envie de présenter ensemble, qui s'appelle « Ça n'engage à rien », c'est justement une émission pour partager avec les gens simplement, sans cérémonial, sans un ton péremptoire comme vous l'avez fait. Voilà, de partager avec eux des textes autour du théâtre, autour de la poésie, partager avec eux des pensées d'acteurs, des correspondances.
Le théâtre ne peut être pas que pompeux ?
Ah bah le théâtre en fait n'est surtout pas pompeux. Le théâtre c'est une expression directe, libre, c'est une expression qui fait du bien. Voilà, le théâtre ça peut être violent, ça peut être drôle, ça peut être cruel, mais je pense qu'en dehors de divertir les gens, il y a un rôle qui est de faire réfléchir le public, de le mettre face à lui-même. Le théâtre agit comme un miroir sur le public.
D'accord, bah écoutez Steve, je vais vous laisser les rênes de l'émission alors.
Merci mon cher Nicolas. Nicolas !
Ça n'engage à rien.
Alors voilà mesdames et messieurs, l'aventure que je vous propose dans cette nouvelle émission « Ça n'engage à rien » et qui j'espère vous plaira. L'histoire, c'est vous raconter des histoires.
Round 11.
C'est quoi avoir 25 ans ? Déjà aujourd'hui, c'est quoi ? En fait, c'est tout ça, c'est extrêmement fin. Je pense que ça parle beaucoup de la jeunesse aussi de cette époque. C'est ça qui m'a beaucoup touché. Il dit foi, amour, espérance. Pour moi, c'est ça la jeunesse. C'est la foi, l'amour, l'espérance. C'est le lendemain. Mais à cette époque-là, cette jeunesse-là, elle n'a pas de place pour ouvrir ses ailes. Et la seule jeunesse qui va être encouragée, c'est celle de la jeunesse hitlérienne. Oui, en fait, fait partie de ces grands auteurs qui a tellement bien parlé de l'humain qu'on a peut-être eu peu de gens dans toute l'histoire du théâtre qui ont aussi bien parlé de l'humain. Donc c'est les auteurs qu'on monte encore aujourd'hui, comme Shakespeare, comme Tchekhov. En fait, Horvat, c'était presque un journaliste parfois, parce qu'il prenait des phrases qu'il entendait dans les troquets, dans les lieux populaires, et il les met dans la bouche de ses personnages. Et il nous les livre comme ça parfois dans la pièce de but en blanc, ce qui fait qu'on entend dans la pièce des horreurs. Et le spectateur, il est obligé de faire appel à son libre arbitre. On entend des horreurs sur les femmes, sur l'esclavage, sur tout ça. Quand il dit « Oh là là, on n'a plus d'argent pour se payer, même pas se payer une femme de ménage, heureusement que j'ai ma fille. » Enfin, ce genre de choses qu'on entend comme ça, et que c'est vraiment des brèves de comptoir. Hein. Et il les met dans la bouche de ses personnages, on les entend. Donc le spectateur est toujours actif, est toujours interloqué, est toujours choqué même. Donc ça m'intéresse. Et ce qui est fou, c'est que malheureusement, ce sont des choses qu'on entend encore aujourd'hui, quand on entend parler des migrants, des gens à la télé qui s'expriment. C'est exactement ce qu'on entend dans la pièce d'Horvat. Ce qui est intéressant, c'est que ce qui va se passer juste après, c'est l'arrivée d'Hitler. Donc c'est toujours bien de réentendre, de comprendre à nouveau ce qui s'est passé à ce moment-là. Comment pensaient les gens à ce moment-là ? Qu'est-ce qui se passait dans la tête des gens à ce moment-là ? Moi, je pense que les gens, ils étaient dans un véritable naufrage et qu'ils sont allés tellement loin dans ce naufrage qu'au bout d'un moment, ils n'avaient plus qu'une seule solution, c'était mettre Hitler au pouvoir.
Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur. Ce n'est pas mon affaire. Je ne veux ni conquérir ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs. Nous voudrions tous nous aider si nous le pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, pas lui donner le malheur. Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Dans ce monde, chacun de nous a sa place et notre terre est bien assez riche. Elle peut nourrir tous les êtres humains. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre. Mais nous l'avons oubliée. L'envie a empoisonné l'esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine, nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans l'insatisfaction. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. Nous ne ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop. Nous sommes trop mécanisés et nous manquons d'humanité. Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. Les avions, la radio nous ont rapprochés les uns des autres. Ces inventions ne trouveront leur vrai sens que dans la bonté de l'être humain, que dans la fraternité, l'amitié et l'unité de tous les hommes. En ce moment même, ma voix atteint des millions de gens à travers le monde. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants désespérés. Victimes d'un système qui torture les faibles et emprisonne les innocents. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'avidité, de l'amertume de ceux qui ont peur des progrès qu'accomplit l'humanité. Mais la haine finira par disparaître, et les dictateurs mourront. Et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Et tant que les hommes mourront, la liberté ne pourra pas périr.
Ladies and gentlemen, welcome, willkommen, bienvenido, bienvenue pour cette deuxième saison en partenariat avec le CDN de Normandie-Rouen. Yes!
Eh ouais, ma gueule!
À l'occasion des 70 ans de la décentralisation, Nico et moi...
Eh ouais, c'est moi, Nico!
...sommes ravis de poursuivre cette aventure avec le Centre Dramatique National qui rayonne, je vous le rappelle, sur trois lieux, Rouen, Petit-Quevilly et Mont-Saint-Aignan. CDN dirigé par David Bobet qui entre dans son second mandat. Alors, deuxième saison, second mandat, second souffle pour vous emmener toujours plus loin en immersion dans la vie du CDN et dans sa programmation 2017-2018 à la rencontre des artistes, metteurs en scène, comédiens, dramaturges, musiciens qui font le théâtre du 21e siècle. Vous pouvez suivre cette émission en direct live sur 99.fm ou en balado-diffusion sur radiohdr.net. Pour débuter ce nouveau voyage, nous avons rendez-vous avec Yann Dacosta, metteur en scène qui officie sur le territoire depuis plus d'une quinzaine d'années et qui avait été notre parrain, rappelez-vous, la saison dernière, aux côtés de Madame Anne Buffet pour leur création intitulée Loveless. Cette année, c'est au Théâtre de la Foudre, à la fin du mois de septembre, que nous avons retrouvé notre nouveau parrain, Yann Dacosta, qui était en résidence avec 12 interprètes au plateau, en pleine répétition, à l'occasion de son nouveau spectacle, Les légendes de la forêt viennoise. Opérette enlevée, écrite en 1931 par M. Von Horvath, qui se jouera pour commencer du 18 au 20 octobre à Petit-Quevilly. À cette occasion, nous avons eu le plaisir d'échanger avec lui sur la pièce et sur l'auteur de cette œuvre, mais aussi sur son métier, metteur en scène. Allez, c'est parti pour ce nouvel opus intitulé tout simplement « Légendes d'Horvath ».
Yann Dacosta, je suis metteur en scène de la compagnie Le Chafouin et metteur en scène donc des légendes de la forêt viennoise de Horvath. Être metteur en scène, c'est pas plus qu'un métier, c'est un mode de vie en fait. C'est-à-dire, on lit des choses, on voit des choses, on accumule et on a des projets dans la tête. Par exemple, Horvath, j'ai découvert ça il y a quelques années. J'ai eu ça en tête pendant longtemps. J'ai vécu longtemps avec cet auteur dans ma tête, comme des gens comme Fassbinder aussi, ces gens qui m'ont inspiré. Au fur et à mesure de sa vie, on dit tiens, c'est comme dans cette pièce d'Horvath, ça, c'est quoi. Puis à un moment donné, on se sent suffisamment chargé aussi pour on sent qu'on a compris quelque chose qu'a voulu nous dire l'auteur et qu'on va être à même de faire passer cette pièce au plus justement et pas faire dire des choses que l'auteur n'a pas voulu dire. En donnant l'impression qu'il y a une vraie résonance entre notre actualité intime et l'actualité du monde et la pièce. Donc on vit avec ses projets, on vit avec ses pièces pendant un certain temps. De la forêt viennoise, il y a une phrase qui me bouleverse dedans. À un moment donné, Alfred va, par son insouciance un peu du début, c'est un jeune garçon qui a 25 ans et qui va draguer une fille. Sauf que cette fille, elle vit une telle tyrannie patriarcale. Elle vit la tyrannie de son père, la tyrannie de son futur mari qui est déjà en place, etc. Et elle va briser ses chaînes. Et elle va se jeter dans les bras d'Alfred, alors que lui, finalement, il était là, on se comprend dans la pièce, il était là pour flirter avec elle, franchement, il ne voulait pas s'engager plus que ça. Mais elle va se jeter dans les bras de ce garçon, et lui, il va devoir assumer une responsabilité très forte. Et c'est là où il va y avoir des catastrophes. Mais il dit à un moment donné, même s'il est filou, même s'il est menteur, même si tout ça, il dit à un moment donné à sa grand-mère, « Et même si tu en crèves, je sais au fond de moi que j'ai une part de responsabilité dans le sort, le sort de Marianne. » Parce qu'il va lui arriver vraiment des catastrophes dans la vie de cette fille, ça va être terrible, c'est une tragédie. Et cette question de la responsabilité, quand on a 25 ans, c'est ça qui a résonné fort un peu chez moi. C'est là où la pièce, elle est forte. Et si on met ça au vu de la grande histoire aussi, cette grande histoire de tous ces gens qui ont laissé entrer Hitler, même s'il y a une forme d'innocence, il y a une part de responsabilité. Et toute cette question de la responsabilité, de la culpabilité, de l'innocence, elle est posée dans la pièce.
Ça n'engage à rien.
Je le savais que vous alliez toucher terre ici.
Et comment le saviez-vous ?
Je le savais. Le Danube est aussi doux que du velours. Ce soir, j'aimerais partir loin. Ce soir, on pourrait dormir à la Belle Étoile.
Facile.
Ah, pauvres civilisés que nous sommes. Que tirons-nous de notre nature ?
Qu'avons-nous fait de notre nature ? Une camisole de force ? Personne ne peut faire comme il peut.
Et personne ne veut faire comme il peut.
Et personne ne peut faire comme il sait.
Et personne ne peut faire comme il devrait. Oh, je le savais. Je le savais.
Moi aussi.
M'aimes-tu comme tu devrais ?
C'est mon sentiment. Viens, asseyons-nous.
Je suis contente que tu ne sois pas bête. Parce qu'autour de moi, il n'y a que des gens bêtes. Même papa n'est pas une lumière. Et parfois, je crois qu'il veut se venger à travers moi de feu ma pauvre maman parce qu'elle était très têtue.
Tu réfléchis trop.
Là, je me sens bien. Là, j'ai envie de chanter. Chaque fois que je suis triste, j'ai envie de chanter. La, 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 la. Pourquoi tu ne dis pas un mot ?
Tu m'aimes ?
Beaucoup.
Comme tu devrais. Je veux dire, tu m'aimes raisonnablement.
Raisonnablement ?
Je veux dire, tu ne vas rien faire d'y réfléchir parce que je ne pourrais pas en assumer la responsabilité.
Oh, écoute, ne te tracasse donc pas. Ne te tracasse pas, regarde les étoiles. Elles seront encore accrochées là-haut quand nous serons couchés là-dessous.
Je veux être incinéré.
Moi aussi. Toi. Oh, toi. Toi. Toi comme la foudre, tu m'as frappé et tu m'as fendu en deux. Mais à présent, j'en suis tout à fait certaine.
De quoi ?
Que je ne l'épouserai pas.
Marianne !
Mais qu'est-ce que tu as ?
Je n'ai pas d'argent.
Oh, pourquoi parles-tu de ça maintenant ?
Parce que c'est mon devoir le plus élémentaire. De ma vie, jamais encore je n'ai brisé de fiançailles. Et cela par principe. Aimer, oui, mais à cause de cela, séparer deux êtres ? Non. Je n'en ai moralement pas le droit, par principe.
Je ne me suis pas trompée. Tu es un homme bien. Maintenant, je me sens deux fois plus à toi. Je ne suis pas faite pour Oscar et basta.
Tes fusées de fiançailles.
Nos fusées de fiançailles.
Et des feux de Bengale.
Bleus, verts, jaunes, rouges.
Ils vont te chercher.
Qu'ils nous trouvent. Reste avec moi, toi. C'est toi que le ciel m'a envoyé. Mon ange gardien.
Que en dansant, tac tac, ça tourne bien et que ça se pose et que tous les trucs qui sont là. Alors, est-ce qu'on peut voir ce que ça donne si, est-ce que vous arrivez à avoir. Toi, Pierre, tu vas peut-être rester déjà assis là-bas.
Ok.
Mais.
Bah, Jade, elle peut aller. Maryse.
Comment tu faisais ? Tu faisais l'entrée quand j'avais fait la chambre ?
Maryse, elle est
là. Oui, je dansais avec eux pour l'entrée. Ouais. C'est ça ?
Oui, alors, non, vas-y, fais-le avec. Fais-le avec. Fais-le avec.
Comme tu veux.
Florent, tu peux prendre une table. Mais tu pourrais prendre une table aussi. Ah oui, il y a Maryse aussi. Elle est où, Maryse ?
Maryse ?
Ah, Maryse, viens là, s'il te plaît. Tu es dans ce tableau. Voilà.
Alors, en fait, il appelle ça une pièce populaire. Pièce populaire, et pour ça, il va utiliser les codes de l'opérette. Donc, en fait, on est presque dans une intrigue d'opérette, avec des personnages d'opérette. Donc, l'intrigue, c'est Magicus, le roi de la magie, qui va marier sa fille avec son voisin, donc c'est un petit monde de commerçants, hein, son voisin le boucher Oscar, Et à côté, il y a Valérie, une buraliste de 50 ans, qui est un petit ami qui s'appelle Alfred, qui est beaucoup plus jeune qu'elle. Et un jour, Alfred et Marianne vont se croiser. Marianne va tomber éperdument amoureuse d'Alfred et elle va briser les liens de fiançailles qui lui étaient promis avec le boucher Oscar. Et à partir de là, vont découler toute une série de drames et de catastrophes. C'est surtout le prétexte qu'Horvat va utiliser pour nous présenter une galerie de personnages. Tous ces personnages qui sont de l'Autriche des années 1930 et qui sont tout prêts à accueillir Hitler les bras grands ouverts. Les gens de la forêt viennoise, il va montrer comment petit à petit, l'égoïsme des gens, la vilainie des gens, va faire que toutes ces personnes vont devenir les proies idéales du fascisme. La jeunesse, les vieux, l'aigreur aussi de la Première Guerre mondiale qui a été perdue. Donc on a le personnage du capitaine de cavalerie, par exemple, dans Légende, qui lui représente vraiment l'aigreur de cette défaite. Et puis on a Eric, le jeune Prussien, qui arrive, qui lui est un étudiant et qui lui est dans un espèce de sentiment d'épargne, de puissance intellectuelle et qui petit à petit va perdre les pédales, va perdre le fil un petit peu de ses idéaux et va se jeter dans la jeunesse fasciste, on va le comprendre à la fin de la pièce.
Oh, cher grand ami! Mais qu'est-ce que je vois là? De la compagnie! Des amis! Oh, présente-moi, s'il te plaît! Oh, mon cher grand ami!
Qui c'est?
Oh, mais c'est notre mister venu d'Amérique!
Ah, l'Amérique! New York, Chicago et Sing Sing. À l'extérieur, yes! Mais à l'intérieur, il bat encore ce bon vieux cœur d'or! Le fidèle cœur viennois! Vienne! L'Éternel et la Wachau!
Et la Wachau!
Et les châteaux, le long du beau Danube bleu.
Donna so blau,
so blau, so blau.
Donna so blau,
so blau, so blau.
Donna so blau.
Ouais, alors c'est vrai qu'il, contrairement à un contemporain qui est Brecht, Horvat est beaucoup moins didactique et moins politique. Je trouve qu'il est beaucoup plus sur l'humain, en fait. C'est des galeries de personnages et toujours, et il disait, personne ne connaît l'humain mieux que moi, mais vraiment, il y a ça chez Horvat, il y a une humanité chez ces personnages, même s'ils sont monstrueux. Et du coup, lui, il n'explique pas comme Brecht. On a l'impression que, par exemple, c'est parce qu'il y a la misère que les gens sont mauvais. C'est parce qu'il y a une conjoncture politique que les gens sont mauvais. Mais Horvat, je pense qu'il est encore plus pessimiste parce que pour lui, il n'y a pas de salut chez Horvat. C'est-à-dire que c'est parce que l'homme est mauvais qu'il est dans cette misère et parce qu'il est dans cette situation. Donc lui, il parle vraiment de l'humanité des gens. C'est ça la différence avec Brecht. Et c'est là où moi, je me sens plus proche d'Horvat, peut-être. Mais c'est vrai que c'est plus pessimiste, du coup, parce que chez Brecht, il y a quand même un avenir. Si effectivement, il y a un vrai changement politique, il y a un salut pour l'homme. En fait, il est mort en 1938 à l'âge de 37 ans, donc il a vécu vraiment entre 1901 et 1938, et il a écrit toute son œuvre entre 1925 et 1938, donc vraiment la période d'entre-deux-guerres. Et pour moi, c'est un des plus fins observateurs, comme Zweig, de cette époque d'entre-deux-guerres et de cette montée du fascisme. En fait, Horvat, donc il était austro-hongrois, et il avait un père diplomate, et il vivait en Allemagne, il vivait entre l'Allemagne et l'Autriche, et du coup, il a vu tout ce nationalisme se mettre en place sans lui avoir un sentiment d'appartenance à un pays particulier. C'était un voyageur, c'est quelqu'un qui aimait l'Europe, qui aimait les gens. Et du coup, toute son œuvre, elle parle de ça. Elle parle beaucoup, c'est un humaniste en fait, c'est un humaniste. Elle parle beaucoup de l'exil, elle, surtout à la fin de sa vie d'ailleurs, quand lui-même a dû s'exiler, avec une pièce comme Aller-retour, où là on parle de migrants, ou Figaro divorce, où il va raconter Figaro qui va devoir émigrer en Allemagne, et puis en Allemagne il va devenir un petit émigré, il va ouvrir un petit salon de barbier, un salon de coiffeur, et puis au début tout va bien, et puis quand la crise va arriver, les gens vont se crisper et vont commencer à trouver des boucs émissaires et des responsables à leur mal-être, et Figaro va devenir un bouc émissaire par exemple. Donc il parle de des migrants, de l'exil, du racisme. C'est un auteur extrêmement féministe aussi, et il parle beaucoup de la situation des femmes. Donc il y a toujours dans son œuvre une femme un peu innocente, un peu héroïne, un peu sacrifiée. Donc on a ça dans Foi, amour, espérance. On a ça dans Les gens de la forêt viennoise avec le personnage de Marianne, qui va être le personnage un peu sacrifié, la jeunesse comme ça, qui rêve, et qui va se faire broyer par l'époque, broyer par la génération d'avant.
Jetzt trink man noch eine Flasche Wein. Es muss ja nur das Letzte sein. Und ist das gar nicht.
Un jour, tu as dit que j'étais un ange. J'ai tout de suite dit que je n'étais pas un ange, que j'étais juste une fille ordinaire, sans ambition. Alors que toi, tu es quelqu'un de froid et cérébral.
Tu sais que je ne suis pas quelqu'un de cérébral.
Si. Il faudrait que je me fasse couper les cheveux.
Moi aussi. Marianne Chou, pourquoi tu te lèves si tôt ?
Parce que je n'arrive pas à dormir.
Tu ne te sens pas bien dans ta peau ?
Toi, oui, peut-être ?
Qui m'a dégoûté des champs de course depuis un an bien sonné? Je n'ai plus parlé à un professionnel, encore moins à un bookmaker. Alors bien sûr, maintenant je peux toujours m'accrocher. Nouvelle saison, nouveau favori. Les 2 ans, les 3 ans, je n'ai plus aucun contact avec la nouvelle génération. Et pourquoi? Parce que je me tue à fourguer une pommade que personne n'achète parce qu'elle est nulle.
Mais c'est que les gens n'ont pas d'argent.
Vas-y, prends leur défense.
Je ne te fais pas de reproches, tu n'y peux rien.
Ce serait la meilleure.
Mais comme si moi je pouvais quelque chose à la crise économique.
Oh, quel égocentrique tu es! Qui m'a donné le conseil débile de courir les rues comme représentant en produits cosmétiques, toi? Mais où sont passées mes fixes chaussettes?
Là-bas.
Non.
Alors, dans la table de nuit?
Non.
Alors, je ne sais pas.
Mais tu dois le savoir.
Oh, exactement comme papa!
Arrête de toujours me comparer au vieux Snock!
Pas si fort. Pas si fort. Si le petit se réveille, ses hurlements vont encore me rendre folle.
D'ailleurs, ce cirque avec le petit, il faut aussi que ça change. On peut quand même pas végéter à 3 dans ce trou. Le petit doit partir.
Le petit reste là.
Le petit partira.
Non, jamais.
Où sont passées mes fixes chaussettes?
Tu sais quel jour on est aujourd'hui?
Non.
Aujourd'hui, on est le 12.
Que veux-tu dire par là?
Qu'aujourd'hui, c'est un anniversaire. Aujourd'hui, je t'ai vu pour la première fois dans notre vitrine.
Je t'en prie, n'utilise pas toujours des hiéroglyphes. Nous ne sommes pas des Égyptiens. Dans quelle vitrine?
J'étais en train d'arranger le squelette et tu as frappé contre la vitrine. Et là, j'ai baissé les stores parce que tout à coup, je me suis sentie mal à l'aise.
Exact.
J'étais souvent seule.
Ne recommence pas à pleurnicher. Écoute, Marianne Chou, bien sûr que je te comprends à 100%, tu as ton égoïsme maternel. Mais c'est vraiment dans l'intérêt de notre enfant qu'il sorte de ce trou humide. Ici, il fait gris et terne, et là-bas, chez ma mère, dans la Vacha, où il y a du soleil.
Je ne dis pas.
Alors tu vois?
Au-dessus de nous, le destin noue les fils de notre vie. Qu'est-ce que tu as dit?
Comment ça?
Tu as dit pauvre cloche?
Mais arrête!
Ne mens pas et arrête de toujours m'insulter!
Cher enfant, il y a une chose que je déteste par-dessus tout, et c'est la bêtise. Et parfois, tu te montres d'une bêtise sidérante. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu es si bête. Mais quel besoin tu peux bien avoir d'être si bête?
Tu as dit un jour que je t'élevais d'un point de vue moral.
Je n'ai jamais dit ça, je n'ai jamais pu dire ça, et si je l'ai dit, alors je me suis trompé.
Alfred!
Pas si fort, pense un peu au petit.
Alfred, j'ai peur.
Tu fantasmes.
Écoute, si de ton côté tu as tout oublié...
Bla, 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 bla.
Ja, so viel, das Jahr zu sehen.
En fait, c'est vrai qu'il faut être à la frontière sur le fil entre un naturalisme pour garder cette humanité-là et quand même quelque chose d'un peu distancié. Alors, ce n'est pas une distanciation du tout à la Brecht, mais lui, il utilise les codes de l'opérette dans cette pièce. Dans Casimir et Caroline, il va utiliser la fête de la bière, la fête foraine. Il aime bien un peu ces codes populaires. Et l'opérette, du coup, elle amène une distance, elle amène un langage. Donc c'est vrai qu'il disait, par exemple, quand vous montez mes pièces, s'il vous plaît, mettez plein de couleurs, des belles couleurs. Donc moi, ça m'est resté dans la tête parce que, pour moi, l'opérette de l'époque, ce serait ce qu'est la télévision aujourd'hui. L'opérette, c'était très à la mode avant la Première Guerre mondiale. Et après cette Première Guerre mondiale, c'est devenu la nostalgie, en fait. C'était l'endroit de nostalgie. Donc les gens réécoutaient de l'opérette par nostalgie. Et lui, il utilise cette musique populaire. Pour moi, c'est la musique qu'on entend à longueur de temps, quoi. Comme aujourd'hui, quand on peut allumer la radio, il y a des musiques qu'on entend, qui nous bassinent, qu'on entend à longueur de temps, les tubes de l'été, etc. La musique populaire de l'époque, c'était ça, c'était l'opérette.
Vous savez, un grand conquérant est un homme seul, toujours. Regardez, portrait Napoléon, il écrit tes lettres bouleversantes à Joséphine devant Moscou qui brûlait. Ah, et moi, parfois, je me sens étranger aussi lorsque je suis loin de chez moi et j'ai envie de crier à une femme. Je n'ai pas changé, je suis toujours ce jeune homme étranger qui t'a chanté tes romances, qui t'a inventé tes dimanches, qui t'a fait voyager.
Alors, on s'est vraiment focalisé sur une musique. Pas toutes, parce que Les gens de la forêt viennoise, c'est clairement le titre d'une valse de Strauss, ça vient de là le titre. Mais nous, on s'est vraiment focalisé sur le Beau Danube bleu, parce que encore aujourd'hui, le Beau Danube bleu, c'est une musique qu'on entend partout, qu'on entend dans toutes les fêtes de famille, qu'on entend dans la publicité, qu'on entend. Donc le travail musical qu'a fait Pablo, c'est toute une variation autour de cette valse de Strauss, qui est le Beau Danube bleu, qui est une espèce de opium du peuple dans lequel il baigne en permanence. On chante ça en permanence, on entend ça en permanence par les fenêtres. Dès que quelqu'un joue d'un instrument, il joue le Beau Danube bleu. Et même quand on joue autre chose, finalement, ça ressemble au Beau Danube bleu. Donc c'est ça un peu l'idée de la pièce et de l'opérette qui va créer cet univers musical et cet univers d'opérette. Et mon projet de mise en scène, c'est que ça ait le goût de l'opérette, ça ait l'odeur de l'opérette, mais que ce ne soit jamais de la parodie d'opérette. Alors là, cette fois-ci, on s'est amusé, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la musique qui se joue live. Les comédiens chantent, jouent aussi, et les chanteurs, je les fais aussi jouer. Donc Pablo, qui est le compositeur de la pièce, qui a dans les spectacles de la compagnie, a toujours été là, sur scène, en train de jouer. Mais cette fois-ci, il a le rôle du présentateur dans le cabaret, enfin, on s'est amusé avec tout ça. Et il y a dans la pièce le personnage d'une violoniste qui est toujours à la fenêtre en train de jouer. On parle d'elle, cette étudiante, et à chaque fois qu'on revient dans cette rue, toujours il y a cette étudiante qui joue, toujours cette valse de Strauss, et c'est aussi le symbole de quelque chose qui n'avance pas, qui n'évolue pas.
Jamais ça, seulement voilà là. Il semblerait que des cadavres plaisés caractérisés soient relevés dans l'entape prouvée qu'avec facilité les erreurs du passé peuvent se renouveler. Faire l'affaire des supporters de la croix, de faire le bras tendu en l'air, le sigle rebelle en bannière. Bombe, bombe, bang, main shoot, moi ça double R. Avec plaisir, je les shoot dans la tête, mais ma terre nationale et ce front international et l'affront. Voilà pourquoi je fais front, fronçant les sourcils quand le drogue sénile s'amuse à faire un score de 25%. Dans ma ville, plus jamais ça stoppe en tout, ça stoppe en les morales. J'ai cérébral et l'embolie, vous avez compris. Vous avez saisi, ressaisi, c'est vous. La jeunesse doit être à l'heure, au rendez-vous. Fixé, en effet, pour pisser sur la femme tricolore. Le putain d'étendard du parti des pas moi. Trop hardcore, mais j'aimerais les voir morts. Je rêve parfois de les voir en métier martyr dans un film gore. Oui, oui, vous avez compris qui je suis. Je combats ceux dérangés par les odeurs et les bruits, car on est tous là de ce retour au même schéma auquel on avait déjà répondu. Plus jamais ça.
Tout ce que je retiens de l'histoire, c'est que les hommes ne retiennent rien, c'est ce que disait Einstein. Je pense que notre travail aussi, c'est de toujours réinterroger cette histoire, la faire réentendre, la faire connaître. Alors d'abord, je dois dire que c'est même plus qu'une coproduction avec le CDN, c'est une production déléguée du CDN, c'est-à-dire que c'est le CDN qui porte la production. La compagnie, nous, cette fois-ci, on est coproducteurs. Et sont entrés dans la coproduction le réseau des producteurs associés de Normandie qui réunit les trois CDN de Normandie, c'est-à-dire le CDN de Vire, le CDN de Caen et le CDN de Rouen, et quatre scènes nationales. La scène nationale d'Evreux-Louviers, le Tangramme, la scène nationale de Cherbourg, le Trident, la scène nationale de Dieppe, DSN, et la scène nationale d'Alençon, Flers et Mortagne-au-Perche. D'entrée de jeu, on a 11 représentations dans tous ces, dans ces 7 lieux. Il y a 12 personnes sur scène, il y a 8 personnes qui vivent ici en Normandie, et 4 personnes que j'ai recrutées qui sont plutôt des Parisiens, mais c'est une production très normande. Et c'est vrai que la compagnie, on est vraiment basé ici. Et même si on travaille avec des créateurs, des artistes, des techniciens qui peuvent venir d'ailleurs sur les productions, je suis toujours très vigilant à ce que le noyau... On est une troupe en même temps, hein, donc le noyau, il vit ici. Et c'est aussi ce noyau qui travaille sur ce territoire, qui va dans les écoles, qui va dans les prisons, qui va dans les hôpitaux, pour travailler avec tous les publics.
Ça n'engage à rien.
Chères auditrices et chers auditeurs, avant de clore cet épisode et de vous laisser au conseil de lecture de Yann Dacosta et à la lecture d'un court extrait d'un roman d'Horvat publié en 1938, Jeunesse sans Dieu, lu par Madame Marion Casabianca, que je remercie mille fois, je tiens à vous rappeler que les premières dates des Légendes de la forêt viennoise auront lieu du 18 au 20 octobre au Théâtre de la Foudre à Petit-Queville. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous saluer et à vous remercier ô combien d'avoir suivi cette émission. Émission conçue et présentée par Steve, et à la technique, au bouton poussoir, il est de plus en plus beau. Un énorme big up à mon homeboy Nicolas Leborgne.
Salut les filles.
Bravo. Un grand bravo aussi à Valérie Diome qui prête sa voix cette saison au slogan de l'émission
« Ça n'engage à rien ».
Merci. Un très grand merci à l'équipe du CDN et bonne arrivée à Lucie Martin. Enfin, un grand, grand merci à toute l'équipe du spectacle « Les Légendes de la forêt viennoise », à la compagnie Le Chafouin et bien sûr à Yann Dacosta pour son accueil et sa disponibilité. Sans oublier, un big up à Laetitia Botella et Théo Costa-Barini pour avoir eu la gentillesse de partager leur texte avec nous, ainsi qu'à Pierre Delmotte pour l'extrait capté en live sur scène. Mention spéciale au compositeur Pablo Elcock pour la musique. Bravo et merci. N'hésitez pas à réagir et à partager sur la page Facebook de l'émission, ça n'engage à rien. À très vite pour de nouvelles aventures et à cœur vaillant, rien d'impossible. Eh bien, puisque ça n'engage à rien, écoutez, Yann.
Horvat, c'est une trentaine de pièces et 3 romans. Franchement, il n'y a pas grand-chose à jeter dans son œuvre parce que lui-même, il a supprimé beaucoup de choses de son vivant et ce qui reste, c'est vraiment le nectar d'Horvat. Donc toutes ces pièces sont extraordinaires. Moi, je me souviens que je lisais l'intégrale d'Horvat pendant les événements Charlie Hebdo et qu'au moment de Charlie Hebdo, j'étais en train de lire Jeunesse sans Dieu. Et vous lisez ça aujourd'hui avec ces événements passés, c'est incroyable. C'est toute cette jeunesse sans Dieu, sans idéaux en fait, qui va devoir trouver son propre chemin, ses propres idéaux et qui va s'engager, on le comprend dans Jeunesse sans Dieu, dans les jeunesses fascistes, etc. Donc dans les extrêmes et c'est un roman que je conseille à tout le monde, c'est un roman sur la jeunesse et si on veut comprendre cette jeunesse aussi qui s'engage dans le djihad, etc., c'est Jeunesse sans Dieu, quoi. Et ce roman est une merveille, une pépite. Lisez Jeunesse sans Dieu.
Ce soir-là, je n'avais pas envie de me coucher. Je revoyais sans cesse les notes prises par cet élève. Oui, ils veulent m'anéantir. S'ils avaient été indiens, ils m'auraient ligoté au poteau de torture et scalpé, et la conscience en paix encore. Ils sont persuadés d'avoir raison. Quelle bande monstrueuse. Ou bien, est-ce moi qui ne les comprends pas? À 34 ans, suis-je déjà trop vieux? Le fossé entre nous est-il plus profond que celui qui sépare d'ordinaire les générations? Aujourd'hui, il me semble infranchissable. Que ces gamins rejettent tout ce qui m'est sacré, passe encore. Qu'ils le rejettent sans le connaître, c'est déjà plus grave. Mais le pire, c'est qu'ils n'ont même pas envie de le connaître. Toute pensée leur est haïssable. Les hommes, ils s'en moquent. Ils veulent être des machines, des vis, des roues, des pistons, des courroies. Non, mieux encore que des machines. Ils veulent être des munitions, des bombes, des grenades. Que ne donnerait-il pas pour crever dans quelque champ de bataille? Leur nom sur un monument aux morts, voilà le grand rêve de leur puberté.
Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé, les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Ohé, saboteur, attention à ton fardeau dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines?